Docteur Jacques Lambroso, bonjour.
Bonjour Charlie.
Heureux de vous retrouver comme au début de chaque mois. Je rappelle que vous êtes médecin, interniste, gériatre et président de l'ADIAM. Et c'est un bonheur de vous retrouver chaque mois pour nous préoccuper de nos aînés. Quel va être le sujet que vous souhaitez évoquer aujourd'hui ?
Mon chéri, d'abord, c'est toujours un plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous. Cette émission va concerner la prévention chez la personne âgée qui, finalement, aborde le domaine du bien vieillir chez les sujets âgés. Voilà. Donc, le premier point que je voulais souligner avant d'introduire précisément le sujet, c'est d'insister sur le fait que les progrès de la médecine, qui ont été considérables depuis ces 40-50 années, ont permis, grâce à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, il y a une politique active de prévention en France, dans la plupart des pays occidentaux, grâce à la prévention des risques cardiovasculaires, la prévention de certaines maladies infectieuses, ces éléments ont changé le panorama de l'avancée en âge. Et aujourd'hui, en 2018 et bientôt en 2019, vivre en maison de retraite, surtout médicalisée, c'est un fait qui est extrêmement rare avant 80 ans et au-delà. Je dirais que les chiffres actuels donnent le fait qu'après 90 ans, plus de 3/4 des personnes âgées vivent encore chez elles, et notamment, une victoire des hommes sur les femmes, près de 85% des hommes. Et en fait, ce n'est qu'à l'orée des 100 ans, à partir des 100 ans, que le départ en maison de retraite, pas toujours en EHPAD d'ailleurs, se fait plus fréquent, mais ce n'est pas nécessairement la règle générale, et j'ajouterai que environ un bon tiers des centenaires vivent encore chez eux avec une aide à domicile. Donc tout cela est très encourageant. Enfin, l'espérance de vie, et je parle de l'espérance de vie en bonne santé, qui est capitale, il faut bien séparer l'espérance de vie globale, qui a un intérêt relatif, mais l'espérance de vie en bonne santé, qui fait qu'on peut effectivement profiter de la vie, continue de s'allonger, et ça, je viens de le dire, grâce au progrès des conditions de vie, au progrès de l'hygiène, des conditions de travail qui se font moins pénibles, moins difficiles, et grâce aussi au progrès de la médecine. On peut dire qu'à 65 ans, à partir de 65 ans, les hommes peuvent aujourd'hui espérer vivre au moins 14 ans sans handicap dans leur vie quotidienne, ce qui est quand même très appréciable, alors qu'en 81, il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie n'était que de 9 ans. Elle a quasiment doublé. Il en est de même pour les femmes qui bénéficient, après 65 ans, d'environ 16 ans d'espérance de vie sans handicap. Toutes choses qui sont appréciables, n'est-ce pas ?
Alors, parler de prévention à 80 ans, n'est-ce pas un peu illusoire, puisqu'on peut penser qu'à cet âge-là, finalement, tous les jeux sont faits ?
Oui, mon cher Guy, vous reprenez là une opinion très répandue, qui donne à penser que tout est joué et qu'après un certain âge, disons 75 ans, 80 ans, tout est définitivement joué. Eh bien, cette opinion-là, je ne la partage pas du tout et je m'inscris même en faux vis-à-vis de ces assertions, sans aucune acrimonie vis-à-vis de vous, bien entendu. Moi, je pense au contraire que c'est dans l'âge avancé qu'il faut surtout penser à l'avenir. À première vue, cela peut paraître paradoxal, mais il n'en est rien. À titre anecdotique, d'ailleurs, je citerai l'histoire d'un monsieur de 90 ans, 92 ans exactement, qui était amoureux et perdu, mais aussi amoureux et conduit par sa dulcinée, et qui l'a assassiné. Un crime amoureux après 90 ans, ça montre quand même qu'il y a forcément un avenir après 70 ans. Bon, revenons aux choses sérieuses, mais il s'agit de choses sérieuses. Le monsieur a été condamné. Je ne sais pas du tout s'il a été incarcéré. En fait, pourquoi faut-il se préoccuper de l'avenir ? Parce que, justement, nous en avons parlé la fois dernière, la fragilité du sujet âgé fait qu'il est en équilibre instable. Et cet équilibre instable peut être bouleversé, et parfois très brutalement, par tel ou tel événement de santé qui n'est pas forcément grave à 30 ans ou à 40 ans, on va s'en remettre facilement, mais qui, à 80 ans ou 90 ans, va, je le dis, bouleverser sa vie quotidienne. Et c'est beaucoup moins, vous en conviendrez, le cas à 30 ans où on peut facilement se rétablir sans trop de dommages des événements de la vie quotidienne. Là-dessus, je vais illustrer mon propos en vous donnant quelques exemples. 3. Premier exemple qui est le plus marquant et le plus préoccupant pour les gériatres, c'est l'exemple des chutes. Des chutes qui sont fréquentes, qui sont chez la personne âgée pour des tas de raisons, et qui vont générer des fractures, des fois des fractures bénignes comme une fracture du coude, du poignet, mais aussi des fois des fractures du genou ou du col du fémur, qui vont faire passer un sujet qui était certes fragile, mais autonome, dans une situation d'handicapé dépendant. Et là, la vie bascule, et bascule à la fois physiquement et moralement. Autre exemple de fragilité qui conduit à des bouleversements, à des situations de dépendance, c'est le risque de déshydratation qu'on a connu les étés derniers. Et ce risque, associé à celui de dénutrition qui est constant, va conduire le plus souvent à des hospitalisations qui auront des conséquences délétères. Et après, il faudra, je dirais, se remettre à la fois de la déshydratation, mais aussi se remettre de l'hospitalisation, ce qui n'est pas toujours facile. Autre exemple, c'est la polymédication. Les personnes âgées prennent souvent beaucoup de médicaments, souvent aussi, je dois le reconnaître, trop de médicaments. Et cette polymédication est parfois mal adaptée ou parfois mal surveillée. Et ça va exposer, d'une part, la non-observance du traitement, ce qui fait que ceux qu'on prétend traiter sera mal traité, d'une part, mais aussi cela va entraîner des effets secondaires liés à tel ou tel médicament ou tel mélange de médicaments, avec des complications qui, elles aussi, vont conduire à des hospitalisations avec des conséquences redoutables. Voilà trois exemples qui montrent bien l'intérêt, et je dirais même, à mon sens, l'importance majeure d'une démarche de prévention raisonnable, adapté chez la personne âgée.
Alors pouvez-vous, docteur, nous donner des exemples pratiques d'une démarche de prévention ?
Oui, on va recommencer à détailler les chutes, car elles sont fréquentes et il est évident qu'elles menacent l'autonomie. Je dirais que en cas de fracture du col du fémur, qui est une menace permanente après 80 ans et au-delà, fracture du col du fémur bien opérée, et maintenant on a des techniques chirurgicales qui permettent d'opérer rapidement et très correctement cette fracture, la marche, malheureusement, n'est pas souvent toujours reprise et l'espérance de vie est surtout significativement diminuée. Je vous donne un exemple, qui est un exemple un petit peu rebutant, mais les chiffres sont têtus, mais ce sont des chiffres. La mortalité, un an après une fracture du col du fémur opérée, j'ai bien dit bien opérée, est de l'ordre de 30%. Ce qui veut dire que c'est plus d'un quart des patients âgés qui vont décéder dans l'année qui suit la fracture du col du fémur, ce qui est considérable, alors même, je répète, que le résultat orthopédique est excellent. Et si la fracture survient plus tard, disons après 85 ans, eh bien cette fois-ci, on n'est plus dans le quart des patients âgés qui vont décéder. Cette proportion peut atteindre 40%, c'est-à-dire près de la moitié des patients opérés risquent ou vont décéder dans l'année qui suit leur opération. Ça montre qu'il s'agit d'un problème gravissime et que la qualité de l'anesthésie et des chirurgiens orthopédiques, je dirais, n'est pas seule en cause, au contraire. Il s'agit justement, et j'y reviens, de la fragilité et de l'absence de prévention de ces facteurs de chute. Donc, revenons à la prévention. Elle repose, je dirais, au moins sur une triple démarche. Je cite trois points, il y en a bien d'autres, mais le temps me manque. Première démarche, bien entendu, c'est la lutte contre l'ostéoporose. Et lutte contre l'ostéoporose qui doit débuter assez tôt dans la vie, notamment chez la femme, juste après la ménopause, et non pas à 85 ans, quand on a eu déjà une première fracture du poignet ou du coude. Cette lutte contre l'ostéoporose, c'est d'abord et avant tout le maintien de l'activité physique, c'est-à-dire la marche et même le port de charge, à condition que le port de charge soit raisonnable. C'était également, je dirais, une alimentation équilibrée. Il faut se rapporter à ce que nous avons dit lors d'une précédente émission. Et au besoin, cette lutte contre l'ostéoporose doit faire la part à des traitements anti-ostéoporotiques qui sont pour la plupart maintenant efficaces et généralement bien supportés. Donc voilà un élément, je dirais, constructif qui permet finalement de prévoir l'avenir et de pallier les risques. Deuxième élément dans la prévention des chutes, c'est la lutte contre la perte musculaire. La perte musculaire est quasi obligatoire, malheureusement, ça s'appelle la sarcopénie. Mais néanmoins, grâce à l'activité physique, à la kinésithérapie régulière, et aussi à une alimentation, nous l'avons déjà dit, riche en protéines, en protides, en viande, œufs et poissons, on va, sinon empêcher, c'est pas possible, mais au moins compenser, dans une certaine mesure, la perte musculaire, la perte en particulier de force dans les jambes, dans les cuisses, qui permet de se tenir debout, de marcher, d'esta. Autre élément dans la prévention des chutes, qui est plus prosaïque, mais qui est non moins important, c'est l'adaptation de l'habitat. Et là, une chose très simple, c'est que passé 70, 75, 80 ans, il va falloir éviter les parquets glissants trop lustrés et trop bien cirés. Il va falloir supprimer ou clouer à la rigueur les tapis, qui sont des pièges redoutables. On se prend les pieds, on tombe. Et aussi adapter le chaussage en évitant les mules sans contrefort, en adoptant systématiquement des chaussures à domicile, bien sûr, qui est en contrefort et qui permettent d'assurer la stabilité du pied en évitant qu'il ne se torde à la moindre embûche. Voilà. D'ailleurs, le dépistage de la chute, c'est une démarche qui est essentiellement conduite en consultation par le médecin traitant des personnes âgées. Et je dirais qu'elle est très simple. Le dépistage est très simple parce qu'il repose sur 5 questions que nous pouvons tous, au quotidien, nous poser. Première question, avez-vous des difficultés pour lever et transporter un poids d'environ 4 kg, c'est-à-dire grosso modo 2 grandes bouteilles d'eau. Avez-vous des difficultés pour traverser une pièce dans l'appartement? La réponse est oui. Dans ces cas-là, il faut effectivement être inquiet. Avez-vous des difficultés pour vous lever d'une chaise? Très important, ça montre, si la réponse est oui, que que les muscles, qu'il y a une faiblesse musculaire au niveau des cuisses et des jambes, qui va être un facteur handicapant, un facteur de dangerosité. Avez-vous des difficultés pour monter 10 marches, grosso modo un petit étage, sans essoufflement anormal? Et aussi, cinquième question, combien de fois avez-vous chuté les 12 derniers mois? Et une fois qu'on a une réponse positive à l'une des 5 questions, il est alors urgent, avec son médecin traitant, de prendre des mesures de prévention, celles que j'ai citées et bien d'autres. D'ailleurs, j'ajoute, mais ça c'est à titre anecdotique, que les déplacements en trottinette sur les trottoirs, on en voit beaucoup à Paris, et même, on le voit aussi de plus en plus, le dépôt de trottinettes, non pas abandonné, mais laissé en garage au milieu d'un trottoir, sont des facteurs de chute, car ils sont autant d'obstacles redoutables chez des personnes mal assurées sur leurs jambes, et j'ajouterais, et pour les malvoyants, pour les aveugles, c'est encore, je dirais, et je pèse mes mots, criminel. Donc nos édiles, qui sont encore relativement jeunes, mais qui ont sûrement eu ou qui ont encore des parents âgés, ne semblent pas en avoir encore pleinement pris conscience, mais il serait temps de le faire pour nous éviter d'autres accidents évitables mais dommageables.
Alors docteur, mieux que personne, vous savez que l'une des préoccupations majeures des personnes âgées et de leur famille est la survenue de troubles cognitifs, c'est-à-dire de troubles de la mémoire, de l'orientation dans le temps et dans l'espace. En un mot, le risque de perdre la tête. À ce niveau, avons-nous aussi des mesures de prévention adéquates?
Oui, je dirais d'abord que là, aujourd'hui, nous parlons de prévention, donc nous ne parlons pas de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences associées, qui feront l'objet d'une émission particulière et qui posent d'autres questionnements qui sont d'une autre nature. Avant d'aborder d'ailleurs les manifestations que vous citez, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, de l'orientation dans le temps, dans l'espace, les difficultés de l'expression verbale, je voudrais aborder un côté plus prosaïque, mais très important, je le souligne, qui consiste à s'assurer, d'abord et avant tout, que les éléments de la vie de relation sont intacts, et en tout cas, s'ils sont, si c'est le cas, correctement entretenus. Et là, je veux parler à la fois de la vision et à la fois de l'audition. Nous avons tous entendu parler de la cataracte, c'est une opacification progressive du cristallin, et là, les progrès considérables et rapides de la chirurgie ophtalmologique ont permis de corriger très simplement la cataracte par une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer le cristallin par la pose de lentilles. C'est une intervention chirurgicale qui, sans être bénigne, car aucune intervention chirurgicale n'est bénigne, donne des résultats impressionnants et, je dirais, redonne goût à la vie les personnes qui se sentaient un petit peu mises à l'écart ou en danger parce qu'elles ne voyaient pas bien. Elle permet de pouvoir se remettre à lire, de se remettre à regarder la télévision, mais parfois même à lire les sous-titres de films et en plus de se promener dans la rue sans trop de risques. Il y a aussi malheureusement d'autres maladies ophtalmologiques comme la dégénérescence maculaire, comme le glaucome aussi, dont on a entendu parler, qui nécessite une prise en charge un peu plus complexe, moins satisfaisante a priori qu'une intervention qui dure maintenant 15 minutes. Mais l'essentiel, là encore, est dans le dépistage précoce du glaucome ou de la dégénérescence maculaire. C'est-à-dire, en somme, qu'une consultation ophtalmologique annuelle est absolument indispensable après 60 ans et bien sûr maintenue bien au-delà de 80 ans. Même en l'absence totale de symptômes, parce que ce sont des manifestations qui sont extrêmement sournoises, silencieuses et qui se manifestent quand déjà le mal est fait ou déjà bien avancé. Voilà pour la vision. Autre point, c'est qu'à 80 ans, mais des fois avant, une personne sur deux souffre d'une baisse de l'acuité auditive qu'on appelle la presbyacousie, comme la presbytie pour ce qui est de la vision. Cette gêne, d'ailleurs, n'est pas toujours avouée. Les personnes âgées ont un petit peu honte de parler de leur gêne auditive, et ça va les conduire progressivement à éviter les contacts ou même les réunions familiales, de peur de devoir faire répéter leurs interlocuteurs, de devoir hausser le ton, de faire remarquer qu'ils ont un handicap. Et pourtant, là aussi, des solutions satisfaisantes existent. Elles sont relativement simples à mettre en œuvre, elles sont efficaces, c'est-à-dire c'est le port de prothèses auditives, qui sont actuellement facilement adaptables et qui sont pour certaines quasiment invisibles. Mais je souligne à nouveau que la presbyacousie doit être corrigée très précocement parce qu'il faut que le patient puisse s'adapter à son appareillage qui au départ va le faire passer du monde du silence, comme diraient certains, au monde de la vie quotidienne avec un bruit ambiant parfois oublié et parfois reconnu comme gênant. Mais il faut effectivement le corriger précocement parce que le cerveau va pouvoir, à ce moment-là, s'adapter aux différents sons qui lui parviennent et les traduire en mots. Effectivement, si on a trop tardé à corriger la presbyacousie, d'une part, la personne âgée s'est habituée à son semi-isolement et ne supportera pas d'avoir, entre guillemets, un micro dans l'oreille, d'une part, et d'autre part, le cerveau n'arrivera plus, je dirais, à traduire les sons qui lui parviennent en mots et en leur apportant de l'intelligibilité. Donc, les yeux ou les oreilles, surveiller et intervenir précocement. D'ailleurs, pour la génération qui nous suit, il est probable que l'usage prolongé des écouteurs, l'usage prolongé et permanent, quasiment permanent des écouteurs, et puis l'audition aussi de certaines musiques, à des niveaux de décibels agressifs, va entraîner plus rapidement que dans la génération des octogénaires une atteinte auditive plus précoce si des précautions ne sont pas prises. Je ne suis pas sûr qu'elles soient prises. Donc je le répète, avant tout, avant de se préoccuper de la mémoire, vérifier que l'audition et la vision sont correctement corrigées et donc ne pas parler trop vite de déficience cognitive si la personne est malentendante ou malvoyante. Maintenant, on va maintenant aborder la question de la mémoire. Et nous le savons tous, beaucoup de personnes vieillissantes se plaignent de leur mémoire. Mais je dirais aussi qu'il y a des personnes, je dirais encore relativement jeunes, qui ont des fois des petits manques d'humour ou des souvenirs qui leur échappent. Donc, la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement capricieux. Et c'est comme s'il s'agissait de retenir de l'eau dans ses mains, ça va être difficile. Alors, on va citer des exemples qui sont avancés en consultation. Il y a d'abord le rappel des noms propres, des noms de famille. On connaît la personne, mais vraiment, on n'arrive pas du tout à lui attribuer le nom de famille qui est le sien. Puis, un peu plus tard, c'est la difficulté de se remémorer des noms communs pour rédiger ou intervenir dans la conversation à bon escient. Puis aussi, ça peut être une difficulté d'acquisition de nouvelles informations, de retenir, de mémoriser de nouvelles informations. On les entend, on les comprend, mais quand il s'agit de les encoder, comme on dit, de les mémoriser et de les resservir dans la conversation, les informations sont un peu, on va dire, chancelantes. D'ailleurs, des questions rituelles toutes simples à la consultation, c'est « Que faisiez-vous avant-hier à 16h »« De quoi avez-vous dîné avant-hier ?» Et là, je vous assure que les personnes âgées, bon, s'y retrouvent pas toujours. Mais il y a aussi pas mal de personnes de quinquagénaires qui ne sont absolument pas capables de vous raconter par le détail leur menu de la veille. Bon, donc, soyons pas trop inquiets ni trop inquiétants. Alors, un point capital qui doit être mis en exergue, c'est que ces difficultés-là ne sont pas, et là j'y insiste, nécessairement annonciatrices d'une maladie cérébrale de type détérioration intellectuelle, type Alzheimer ou autre démence. Il s'agit, je dirais, de manifestations d'un cerveau vieillissant, comme la peau vieillit, comme les muscles vieillissent, comme le cœur vieillit, comme les articulations vieillissent. On n'est pas forcément, même rarement même, rentré dans le domaine de la pathologie. Dans la grande majorité des cas, quand on prend le temps d'interroger les patients, ces symptômes sont liés à des difficultés psychologiques, comme le stress, des soucis familiaux, il y en a beaucoup, un départ à la retraite qui a été mal préparé et surtout mal vécu, la crainte aussi non avouée d'un vieillissement anormal, et aussi et surtout, et on y reviendra souvent, c'est lié à un isolement affectif et social qui fait que finalement, quand on n'utilise pas la parole et la mémoire parce qu'on n'a rien, on n'a personne à qui parler, ben finalement, les éléments s'atrophient aussi bien qu'un muscle ou qu'une autre fonction. Enfin, les dépressions réactionnelles se signalent souvent par des difficultés de la mémoire. Et le traitement antidépresseur, accompagné nécessairement par une psychothérapie, un accompagnement psychologique, vont venir facilement à bout de ces difficultés. Donc la mémoire, comme toute activité humaine, comme un muscle, doit être entretenue et stimulée. Et là, je vais faire trois préconisations simples, sans rentrer dans les démarches médicales qui appartiennent aux médecins. Première préconisation, c'est d'être toujours beaucoup plus concentré lorsqu'on accomplit une tâche quelconque, comme ranger des objets ou écrire un courrier. Quand on range un objet dans un placard, il faut en même temps se dire que ce n'est pas un geste automatique, et on se dire intérieurement, je suis en train de ranger tel livre dans tel placard sur telle étagère. Et il faut être, comme je dirais, tout entier dans la tâche accomplie, sans penser à autre chose et surtout sans essayer de faire autre chose comme parler ou comme téléphoner en même temps, parce que là, vous n'y retrouverez plus vos petits. Deuxième point qui est important, c'est continuer d'apprendre. Car interrompre ses activités intellectuelles, quelles qu'elles puissent être, chacune les siennes, est très dommageable. On peut par exemple se remettre ou décider d'apprendre une langue étrangère, bien que ce soit effectivement bien plus difficile à 30 ans qu'à 30 ans. On peut se mettre à essayer de se remémorer les poèmes qu'on a appris dans son enfance, ou même en apprendre de nouveau par cœur. Je connais des centenaires qui sont capables de vous réciter les poèmes qu'ils avaient appris au cours moyen, première et deuxième année, il y a 90 ans. On peut aussi, et c'est très important, reconstituer mentalement l'intrigue d'un roman qu'on vient de lire ou d'un film qu'on vient de visionner, voire même, et c'est un exercice très intéressant, de reconstituer, sommairement bien sûr, l'article d'un journal qu'on vient de lire. Et cela, je dirais, régulièrement et même quotidiennement. C'est un excellent, je dirais, entretien de la mémoire. Enfin, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens parce que c'est important, il faut maintenir une vie sociale et familiale en rencontrant, si possible, régulièrement sa famille, ses amis et en poursuivant, par exemple, des activités caritatives, car c'est dans l'échange et même dans la confrontation, amicale toujours, que l'esprit continue d'être aiguisé. En un mot, les troubles de la mémoire, ou plutôt les plaintes sur la mémoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, affectent la grande majorité des personnes vieillissantes, mais parfois aussi, je l'ai dit, des quinquagénaires ou des sexagénaires, et ils ne sont pas pour autant annonciateurs, ces troubles, d'un déficit intellectuel qui va se majorer, qui va s'aggraver pour aboutir à la démence. Donc il faut entretenir sa mémoire. C'est une forme d'hygiène intellectuelle comme l'hygiène corporelle, mais c'est pas non plus annonciateur de défaite et de naufrage.
Alors, y a-t-il d'autres domaines en conclusion où la prévention s'impose dans la vie quotidienne ?
Alors, il a fallu donner encore plus de détails sur les autres éléments de prévention. Là, je vais me contenter de les citer, parce que le temps me manque. Mais je les cite sans ordre d'importance. Premièrement, l'arrêt du tabac chez les hommes comme chez les femmes. Le contrôle adapté de l'hypertension artérielle, essentiel. Nous disposons de nombreux médicaments. Ces médicaments permettent de traiter l'hypertension artérielle sans trop ou même sans jamais d'effet secondaire, mais à la condition que la personne âgée, de son côté, prenne quotidiennement, et je dirais même religieusement, son traitement. Ça, c'est important. Autre élément, c'est la poursuite des dépistages. Dépistage du cancer du côlon, par des techniques simples, du cancer de la prostate chez l'homme, du cancer du sein, même si les programmes actuels qui sont mis en place par les pouvoirs publics, il faut les en féliciter, prévoient de les interrompre, ces dépistages, vers 74 ans, pour des raisons économiques que je comprends, mais le médecin et le patient peuvent poursuivre ce dépistage à un rythme peut-être moins soutenu, mais quand même. Tout peut se voir, je dirais, même dans les âges avancés. Autre élément qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les vaccinations. La grippe, bien entendu, parce qu'elle est dangereuse, voire mortelle chez la personne âgée, mais aussi la vaccination contre le zona, qui est une pathologie qui paraît simple, mais qui est douloureuse et même parfois compliquée au plan neurologique, mais aussi les deux vaccinations actuelles contre la pneumonie à pneumocoque. Et puis, pour ceux qui continuent de jardiner, et je les encourage à continuer de jardiner, la vaccination contre le tétanos, parce que celle du service militaire est encore bien loin. Voilà, on a fait un tour d'horizon qui est nécessairement limité. Retenons, en somme, que l'activité physique, avec le moins de sédentarité possible, c'est-à-dire le maintien d'une activité physique régulière, et aussi la poursuite d'une vie sociale et culturelle, sont des éléments essentiels de la prévention chez la personne âgée.
Merci beaucoup, docteur Jacques Lambroso. Je rappelle que vous êtes médecin, interniste, gériatre, président de l'ADIAM. Et si nos auditeurs veulent en savoir plus précisément sur le rôle de l'ADIAM auprès des seniors, il est essentiel et il peut apporter une aide considérable. Consultez le site adiam.net. Merci beaucoup, docteur. À très bientôt.
Merci beaucoup, Guy.